Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 129e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis à 8h avec notre sélection de l'actu. Une sélection de l'actu, je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour Fasquille.
Est-ce que ça va bien?
Bah écoute, confiné comme d'habitude depuis un moment maintenant, hein. Et le ciel est bleu, c'est magnifique. Mmh. Moi, je pourrais vous dire que ça me manque de pas aller me balader dans le parc, mais je le fais pas quand on a le droit. Donc, en vrai, ça me manque pas beaucoup. Et puis, on en a profité pour se faire un petit sommaire sympathique.
Ouais, et on va y aller tout de suite parce que l'actu est quand même chargée, l'air de rien, avec le gaming et des news de Fortnite mobile.
Bah, alors, Fortnite pas mobile. Fortnite sur Google Play, mon ami.
Ah, c'est pas la même chose.
Parce que,
hein.
Non, on en avait parlé il y a bien longtemps maintenant. C'est pas la même chose parce que la version iOS, elle était sur le store. Enfin, voilà, tout était normal car ils n'avaient pas le choix. Mais Monsieur Epic était pas très content de devoir donner 30% de tout son bel argent gratuit à nos amis de chez Google. Donc, ils avaient décidé de ne pas aller sur le Play Store. D'accord. Pour ne pas devoir filer plein de thunes. Tu sais, il y a une boutique intégrée dans Fortnite pour acheter plein de trucs. Ouais, c'est comme ça qu'ils font leurs milliards. Et filer 30% de tous ces brousoufs à Epic, ça les arrangeait pas trop. Donc, ils avaient décidé de faire un truc de leur côté sur un site web qui n'a rien à voir, qui n'était donc pas sur le store. Mais après des mois et des mois et des mois de lutte, ils viennent de craquer, ils viennent de se mettre sur le Play Store comme tout le monde parce que ils ont eu un petit souci qui est un truc très connu des gens qui veulent mettre des applications sur des sites à eux sans passer par les stores. Oui, c'est faisable sur Android. Non, ce n'est pas si ouvert que ça, puisque en fait, Google à l'installation, au téléchargement, etc., vont vous prévenir 50 000 fois que, attention, ça peut être un malware, attention, ça peut être un... Et c'est souvent vrai, enfin, je veux dire, c'est des précautions de base et c'est des avertissements qui sont nécessaires. Mais du coup, les parents qui devaient installer le truc pour leurs enfants sur leur téléphone, ou les enfants qui avaient bien suivi les leçons, n'installe pas n'importe quoi sur ta tablette ou ton téléphone Android, on finit par se dire, ça pue, bon, je vais pas l'installer. Bon, voilà, et donc du coup, ils ont perdu plein de gens comme ça. Mmh. Et puis, à mon avis, ils se sont rendus compte que les téléchargements s'effondraient, etc., passaient la vague initiale. Donc, ils ont craqué. Ils sont revenus dans le droit chemin, entre guillemets. Je fais mes fameuses R guillemets autour du micro. Parce que, oui, je sais que les défenseurs d'Android aiment bien ce côté pseudo-ouvert, mais la réalité du truc, c'est que c'est aussi fermé et cloisonné que iOS sur la base, si tu veux, pour le grand public. On peut, évidemment, on a une latitude qui n'a rien à voir avec iOS si on est un petit peu bidouilleur. Mais pour le grand public qui veut juste jouer à Fortnite, si tu veux, on n'est pas sur la même catégorie de public. Et là, il y a un souci. Donc voilà, évidemment, ça s'est accompagné d'une longue diatribe de chez... je sais plus si c'est le patron de Epic qui l'a écrite, qui explique qu'il regrettait ce positionnement, etc. Mais bon, que voilà, pour être un petit peu raisonnable, il fallait se plier à ce genre de desiderata pour continuer à gagner plein d'argent. Parce qu'évidemment, oui, des milliards moins 30%, ça reste des milliards. Donc les mecs se sont dit, bon, finalement, c'est pas grave, on va y aller. Donc voilà, si vous voulez le télécharger maintenant et l'installer pendant le confinement à vos neveux ou vous-même, on ne vous jugera pas. Si, on le fera en fait. On va le faire, hein, je déconne. et maintenant, c'est directement sur le Play Store. Il n'y a plus de galère.
Et on continue dans le gaming avec Hunters Arena Legends. T'as vu, j'essaie de le faire bien.
Ouais, c'est beau. J'aime bien cet accent. Parce qu'en plus, tu vois, ils font des titres de 4 km alors que c'est un jeu coréen.
C'est ça.
Faites des trucs plus simples, les mecs. C'est pas obligatoire, ces titres. Enfin bon, bref. Je vais en parler très rapidement car je ne sais pas vraiment pour y jouer car ce n'est pas vraiment disponible. C'est juste pour vous prévenir que ce jeu hybride, c'est un peu compliqué, hein, c'est entre le Battle Royale, le MOBA, l'action RPG, en tout cas c'est ce qu'il dit sur le communiqué de presse, je vais y revenir, je ne suis pas d'accord à 100% sur toutes ces définitions. C'est fait par le coréen donc Mantis Co et c'est en bêta test en Europe entre le 22 et le 26 avril. Si vous regardez votre calendrier, il vous reste un petit week-end pour tester la chose gratuitement. Je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast la page web sur laquelle il faut aller pour s'inscrire. C'est un jeu coréen. Le design ne va pas vous surprendre si vous avez lancé une fois dans votre vie Black Desert Online. Oui, c'est joli. Oui, les filles ont des armures qui, bizarrement, ne couvrent pas grand-chose. Il y a des classiques. C'est comme ça que j'ai fait de la pub hier sur Twitter pour dire que j'allais en parler aujourd'hui en disant qu'il y a un bug, on peut pas prendre des screenshots de face sur ces persos, c'est très bizarre. Le jeu en lui-même est assez bizarre, donc je vais vous laisser juger vu que je vous préviens que vous pouvez y jouer là maintenant tout de suite, donc vous n'avez pas besoin de mon aide pour vous faire un avis. Ce que je vais vous dire en revanche, c'est que le côté MOBA, je l'ai pas bien trouvé. Hein. On est vraiment dans du Battle Royale avec une grosse carte, une zone qui se rétrécit, le dernier à la fin est gagné. Donc ça, ok, c'est check, il n'y a pas de problème, on est dans le Battle Royale. Le MOBA, je vois pas trop. L'action RPG, en revanche, oui, je vois bien, car ils ont inclus dans ce titre tout un système de leveling, d'objets, de pouvoirs que tu vas débloquer pendant que tu es toi-même en train d'essayer de pas te faire tuer par d'autres mecs, tu vois. Donc c'est un peu pénible. Et la problématique que je vois avec ce titre, c'est qu'il est vachement trop complexe pour un Battle Royale, en fait. Enfin, tu vois, en fait, pour moi, c'est plus un MMO qu'un action RPG sur plein, tu vois, de détails. Il y a beaucoup trop de menus. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, à ingurgiter au début dans tes premières parties. Je te confirme que moi, je suis sorti de la première ville. C'est moi qui ai buté le mec qui était juste devant moi. On allait dans la même direction, tant pis pour lui. Et puis, je sais pas, j'avais peut-être mieux regardé le tuto que lui. Du coup, le gars, je pense qu'il a désinstallé parce qu'il est même pas sorti de la ville alors qu'on a attendu très longtemps. Il faut attendre qu'il y ait 50-60 joueurs de connectés, j'ai un doute là tout de suite. Mais bon, bref, tu passes beaucoup de temps dans la ville de départ qui sert en fait de zone tampon en attendant que les derniers joueurs se connectent. Et le mec, je l'ai renvoyé chez lui direct en fait, hein, parce que je l'ai tué, je sais pas, au bout de 2 minutes de jeu, même pas. Donc, ça peut, quand ça vous arrive, je pense que c'est très très frustrant. Et puis, après, tu passes ton temps à esquiver les mecs pour farmer, pour monter en level, pour récupérer des objets, pour récupérer des niveaux, pour ne pas crever bêtement dès que tu vas croiser un gars. Et là, je t'avoue que évidemment, ma première partie, j'étais genre level 25. Je me suis dit, ça y est, je suis un cador. Là, je crois que je suis dans le bon timing. J'y vais. Je me suis fait pratiquement one shot par un mec en face que j'ai attaqué en plus. Hein. C'est moi qui l'ai vu, c'est moi qui y suis allé et je me suis fait décalquer. Donc voilà, je me suis dit, il va y avoir un petit problème d'équilibrage sur ce jeu. Je suis pas certain que sous sa forme actuelle, ça fasse un carton. Et surtout, en plus, ils ont un petit concurrent puisqu'il y a la version Battle Royale de justement Black Desert Online qui va débarquer. J'en ai déjà parlé dans Torréfaction il y a quelques semaines, qui va être en standalone, donc pas besoin du MMO d'origine pour y jouer, qui a simplifié 2-3 trucs. Ils ont eu une bêta très longue. Je sais pas, c'est, pour moi même celui-là est un peu compliqué, mais Hunters Arena Legends, je pense que ça va être un petit peu chaud, mais bon voilà, vous pouvez aller tester ça, c'était l'information principale.
Allez, on passe du côté des apps avec des news de nos amis de Plex.
Plex qui n'arrête pas, tu vois, même en confinement c'est beau. Alors ils ont un programme qui leur permet de mettre sur le marché des applications qui sont réservées aux gens qui ont le Plex Pass, qui sont pas des applications indispensables entre guillemets, en tout cas au départ, aux utilisateurs on va dire normaux, et ça leur permet d'avoir aussi des bêtas. Donc il y a des gens qui testent certains trucs même en avance, même par rapport à ce programme-là, tu vois, histoire de pas mettre sur le marché des bouses. Et là, cette fois, ils nous ont sorti deux produits qui s'appellent PlexAmp et PlexDash. Alors, PlexAmp, c'est un lecteur audio pour Android et iOS qui permet, en fait, de se brancher directement sur sa librairie Plex. Là, vous avez mis vos MP3 à l'ancienne. C'est pour tous les gens qui sont pas encore passés à Spotify, Apple Music et compagnie. Il en reste un fast-kill.
Oui, je suis un des derniers résistants.
Je suis là, dit-il en touchant et en caressant ses vinyles. Et du coup, là, j'avoue que je suis assez surpris du design. C'est vraiment joli. Ils ont vraiment bien travaillé. Et j'ai vraiment pas beaucoup de MP3. Moi, en revanche, sur ma librairie Plex en ce moment. Donc, j'ai testé ça très rapidement. Ça fait le taf. On peut évidemment récupérer ça en offline pour pouvoir les écouter un peu partout. C'est un gros avantage qui est indispensable puisqu'on peut le faire sur Spotify et compagnie. Donc, ça serait un petit peu dommage de pas pouvoir le faire avec un truc où vous avez les fichiers chez vous, car vous les avez backupés, car vous avez les originaux.
Bien sûr.
Bien sûr. Et donc, du coup, c'était un petit peu obligatoire. L'autre truc, c'est PlexDash. PlexDash est uniquement un truc qui intéressera les gens qui partagent dans le cadre du Plex Pass leur connexion avec des potes, donc qui partagent leur compte, qui ont fait des comptes amis ou qui ont simplement une ribambelle de gnome à la maison à distraire, surtout en ce moment en confinement, et qui veulent vérifier qui fait quoi, qui bouffe la bande passante, qui regarde quoi, etc. Donc, en fait, c'est un dashboard, tout bêtement, qui va permettre de suivre suivre l'activité de votre serveur Plex. Alors, je vous ai linké le billet de blog de nos amis de Plex qui explique tout ça, et vous avez les liens pour aller télécharger tout ça et regarder la tête que ça a directement sur leur site. Évidemment, c'est dispo dans toutes les boutiques classiques, hein, c'est-à-dire le Play Store chez Android et l'App Store côté iOS.
Allez, on reste dans les apps et je voulais vous parler de la sortie d'un milestone pour un de nos browsers favoris, mon cher Caf, hein, Vivaldi,
oui.
Qui sort sa version 3.0. Alors,
le roi d'option.
Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf du côté de cette V3? Eh bien, l'intégration d'un bloqueur de tracker qui est en fait inspiré, enfin, qui utilise en fait le DuckDuckGo Tracker Radar, et puis un bloqueur de pub intégré, la possibilité, ça c'est plus anecdotique, d'avoir une horloge dans la barre de statut avec un compte à rebours et une alarme. C'est pratique si par exemple tu te dis, bon allez, je m'accorde 10 minutes de Facebook, tu te mets une petite alarme et puis comme ça après tu la respectes pas et tu continues à surfer sur Facebook pendant 2 heures. Il y a des améliorations aussi du côté de ce qu'ils appellent la Special Navigation, donc c'est tout ce qui permet de surfer facilement sans avoir de souris via les raccourcis clavier, et puis ils ont fait quelques améliorations aussi sur leur système de pop-up pour les vidéos, et c'est aussi l'occasion pour Vivaldi de sortir une première version stable pour Android. Alors j'ai pas eu l'occasion de la tester encore, mais je vais faire ça dans les jours qui viennent, où ils ont mis une emphase quand même assez importante sur la facilité de navigation entre les onglets, et on récupère du coup les mêmes bloqueurs que sur desktop, donc bloqueur de tracker de chez nos amis de DuckDuckGo et le bloqueur de pub. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et il y a aussi de la synchronisation, pas surtout encore pour le moment, mais déjà sur les bookmarks, les speed dials, les mots de passe pour ceux qui font encore l'erreur d'intégrer ça directement dans leur browser, l'autofill, l'historique, mais bien évidemment pas les extensions, ce qui est plutôt logique. Ça intègre aussi les notes. Alors j'ai jamais utilisé ça dans Vivaldi, mais donc ils ont un système de notes intégrées qui vaut ce qu'il vaut, j'imagine.
Enfin, moi, j'ai pas testé. Mal, il est pas mal. C'est vrai. Mais, ouais, mais moi, comme il n'était pas synchronisé pendant 1000 ans, je ne l'utilisais pas du coup.
Bah voilà, maintenant il est synchronisé, c'est intégré dans la version mobile. Et ils ont simplifié la prise de screenshot. Tu peux choisir des parties de l'écran plutôt que de devoir faire un screenshot complet sur ton téléphone et devoir le retoucher nice. Après derrière dans le Photoshop que tu ne payes pas. Pour donc
acheter bah, Affinity.
Voilà, exactement. Et puis il y a un dark mode, je sais que ça fera plaisir à plein de gens. Donc voilà, c'est toujours un des meilleurs browsers du marché, en tout cas sur une base Chromium. Je suis en train de tester là depuis quelques semaines Edge, donc bah, quand j'aurai un peu dépoussiéré tout ça, je ferai peut-être un petit billet pour en parler, parce que c'est vrai que c'est plutôt une bonne surprise. Mais donc voilà, Vivaldi sort en version 3.0, on vous linkera, je sais plus ce qu'on vous link d'ailleurs, je vais regarder dans la conduite tout de suite.
En live, direct.
Voilà, bah, on vous linkera le papier de blog de Vivaldi qui explique tout ça, donc pour les gens qui veulent avoir tous les détails. On reste dans les apps avec des nouvelles aussi du côté de Pixelmator.
Ouais, Pixelmator, c'est un de mes éditeurs d'images préférés, justement, parler de Photoshop tout à l'heure. Donc quand on est sur iOS, historiquement Pixelmator c'était la meilleure option, particulièrement sur iPhone, vu que c'était la seule d'ailleurs avec cette puissance là. C'est toujours le cas sur iPad, maintenant il y a un peu baston puisque Affinity Photo a une version iPad qui est vraiment extrêmement intéressante. Pixelmator pour la retouche photo a même une autre version qui s'appelle Pixelmator Photo. Là je vous parle de Pixelmator, la version d'édition d'image beaucoup plus classique, qui fait pas du tout que de la photo mais qui vous permet de faire de la retouche, de la correction, etc., etc., qui vous permet de créer des choses beaucoup plus facilement et beaucoup plus. C'est pas juste, voilà, j'apporte mon image et je fais des corrections colorimétriques, tu vois. Et ça faisait longtemps que ça bougeait plus. Donc, pas mal de gens s'inquiétaient en se disant, oh là là, mais non, mais je veux pas qu'il meure. Parce qu'en plus, bah, sur iPhone, justement, les options sont pas non plus légion. Cette version 2.5 est extrêmement intéressante. Déjà, parce que c'est une bonne surprise, on l'attendait pas. Et ensuite, parce qu'ils ont enfin modernisé le truc le plus pénible, c'est-à-dire la façon dont il fallait utiliser l'application pour aller chercher les images, pour naviguer à l'intérieur, etc. Ils ont tout mis à plat. Maintenant, c'est enfin intégré avec le Document Browser, en fait, l'application fichier, si tu veux, que tu as sur iOS 13, qui a été largement améliorée. Ils ont utilisé, en fait, les API qui sont disponibles sur iOS pour justement avoir un navigateur de documents qui soit bien plus intéressant, bien plus puissant et qui te permet d'aller te balader dans l'intégralité de ton arborescence de ta machine iOS. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et là, maintenant, bah, c'est enfin intégré hyper proprement à l'intérieur. Ça marche très bien. Il y a plein d'options en plus. D'ailleurs, même sur la version iPhone, avec des presets. C'est con, mais c'est les trucs qu'on a sur les les outils desktop, mais qu'on n'avait pas dans la version Pixelmator sur iOS. Typiquement, tu veux faire un truc pour Instagram, etc. Bah, bim, maintenant, tu pourras dire, OK, là, je vais bosser sur un post Instagram. Tu ouvres directement un Canva à la bonne taille et tu peux importer tes images à l'intérieur, les retoucher, les mettre à la bonne dimension, etc., etc. C'est un éditeur de photos par layer, donc par couche en français. Ça va permettre justement plein d'effets qui sont pas du tout possibles avec l'éditeur par défaut qu'on a sur iOS, par exemple, ou sur les applications un petit peu plus bas de gamme. L'autre bonne nouvelle, c'est que c'est une update gratuite pour ceux qui ont déjà l'application, et ceux qui ne l'ont pas, bah vous pouvez aller mettre la main à la poche sur le store. Ça va pas non plus vous ruiner, hein, je vous rassure, car le prix est de 5€ environ en fonction du pays où vous êtes. Ça va varier, c'est un petit peu plus chez nous, c'est 4,99€ sur la boutique américaine. Voilà, c'est si vous êtes confiné et que vous aimez bien bidouiller de l'image, c'est une application à connaître.
Et on termine cette section app avec des news de Mixcloud. Mixcloud, c'est un site en ligne, c'est un espèce de SoundCloud, mais pour DJ, donc qui permet en fait de mettre en ligne tes mix DJ avec cet avantage que quand tu fais ta tracklist derrière les morceaux que t'as passé, il y a directement des petits liens pour aller les acheter, donc c'est plutôt bien vu par les gens qui font du son parce que il y a vraiment moyen, si tu flashes sur un morceau, d'aller le récupérer directement et de le mettre dans ta besace. Alors jusqu'à présent Mixcloud c'était que des sets enregistrés, et là ils viennent de mettre en ligne leur projet live qui va donc permettre donc de faire du streaming, et comme tout le monde fait du streaming en ce moment, ça pouvait pas mieux tomber. D'ailleurs en fait c'est un projet qu'ils avaient dans les cartons depuis un petit moment, et avec la pandémie, ils ont décidé de le rendre public beaucoup plus tôt que prévu, ce qui veut dire que on a droit à une version qui est pas encore du tout finalisée. Il y a pas par exemple d'intégration dans les vidéos de reconnaissance de track pour justement permettre aux gens d'aller directement les acheter, ce qui à mon avis fera partie des choses qui vont être développées. Donc c'est une version qui est pas complète mais qui est fonctionnelle et qui nécessite simplement d'avoir un abonnement pro chez Mixcloud. C'est la tranche à 11€ par mois, donc ça s'adresse principalement aux gens qui font du son un peu sérieusement. C'est compatible avec tous les softs du marché, OBS, XSplit, Wirecast, tout ça. Donc il n'y avait pas de live au moment où je suis passé sur le site tout à l'heure, ça vient d'être lancé, donc j'imagine que les gens vont encore pour un moment rester sur Twitch ou sur YouTube, mais d'ici quelques jours, en espérant que ça se décante un peu, j'irai faire quelques essais, puis je vous en reparlerai si ça vaut le coup dans un billet dédié sur Geekzone. On passe du côté de la culture et je garde le micro puisque je voulais vous parler de la sortie du nouvel album de RJD2. Tu connais RJD2 quand même?
Oui, ça va, ça je connais.
Donc c'est son septième album solo, de son vrai nom Ramble John Crone. On comprend pourquoi il a opté pour le pseudo du coup RJD2. Ouais. L'album s'appelle The Fun Ones, il est sorti il y a tout juste une semaine, le 17 avril dernier. Il y a des guests de Asey Alone, Homebody Sandman ou encore Jordan Brown. Et il replonge encore une fois dans le son des années 70, un peu comme sur l'album Dame Fortune, pour ceux qui connaissent, qui était sorti en 2016. Et c'est notamment parsemé d'extraits de conversations avec d'autres artistes comme Kid Koala. Et tout ça se mélange très bien, c'est vraiment un album qu'on peut écouter du début jusqu'à la fin comme une mixtape. Et plutôt que d'en parler, je vous propose qu'on écoute un petit extrait, le morceau Pull Up on Love, qui rend hommage à James Brown. Ain't no bitch in my blood. I'ma make it do what it does. I'ma pull up on love. I'ma make it get on up. Ain't no bitch in my blood. I'ma make it do what it does. I'ma pull up on love. I'ma make it get on up. Oh. She thicker than Snickers, I ain't no candy rapper. I'm suited and booted, I'm talking Dandy Dapper. She a cutie patootie, I don't know what she's after. Don't judge a book by its cover, let's try to read a chapter. She got the sweetest laughter, I'm caught up in the rapture. I'm trying to play it cool, smooth in the Donny Hathaway. The type of woman that you wanna make her day. She dirty wine like a vintage Boucherlay. She pretty bougie, but I like it that way. Ay, cause I don't want no broke bitch. And shout out, you a dope bitch. I come correct when you approach, bitch. Whew. Don't fuck around and fuck it up. We hit the club just to fuck it up. I fuck around and call it love. Don't be scared to fall, shout it, baby, knuckle up. Ain't no bitch in my blood. No. I'ma make it do what it does. I'ma pull up on love. I'ma make it get on love. Ain't no bitch in my blood. Pull Up on Love, donc tiré du nouvel album de RJD2, The Fun Ones. Et on reste dans la musique, je voulais vous parler d'une compilation et en même temps d'une bonne œuvre. Ça s'appelle Music for Containment, c'est une compilation à l'initiative du producteur français Molécule, alias Romain Delahaye, et qui a réuni 33 artistes pour 3h30 de musique. C'est principalement des morceaux posés pour se détendre, c'est de l'ambiance, c'est des trucs assez calmes. On y retrouve notamment des noms comme Étienne de Crécy, Rhône, Dominique Dalcan, Arthur H, Bertrand Burgala, Alex Goffer, mais aussi des gens moins connus. Il y a vraiment des trucs très très bien, comme cette longue plage baptisée MAM de Flavien Berger qui s'étend confortablement sur 30 minutes, donc vous avez le temps de voir venir. Voilà. Tous les bénéfices de la vente de cette compilation seront reversés à la Fondation de France qui, une fois qu'elle va récupérer la thune, va se charger de la répartir entre les différents sites qui s'occupent de gérer nos soins de santé en ce moment, pour financer un peu la recherche aussi, et globalement pour tout ce qui peut d'une certaine manière venir en aide aux plus vulnérables pendant cette pandémie. Là aussi, je vous propose qu'on écoute un petit extrait, c'est un inédit de Rhône, le morceau s'appelle « 8 p.m. ». A priori donc 33 artistes, 33 morceaux et 33 inédits, si je dis pas de bêtises, j'ai pas l'impression que ce sont des morceaux qui étaient déjà sortis ailleurs. Et tout ça donc pour les bonnes œuvres. On passe du côté de la tech avec la grosse révolution slash magie de la semaine.
Magie, on y est, ouais, si. Parlons magie, car nous, en fait, c'est de la magie quand on ne comprend pas, et nous, parfois, on comprend pas. Donc là, on va parler de NVIDIA RTX Voice. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un module de nos amis de chez NVIDIA dans le cadre d'une opération un peu plus large qui s'appelle NVIDIA RTX Broadcast, si je ne dis pas de bêtises. En fait, ils ont prévu tout un ensemble d'outils pour faciliter la vie des gens qui font du streaming sur Twitch, Mixer et compagnie. Et le tout repose évidemment, comme vous l'avez entendu dans le nom, sur les petits cores, ce qu'ils appellent les Tensor Cores, qui sont des ajouts sur les dernières cartes RTX, qui sont là pour accélérer le traitement et faire de la magie normalement sur nos pixels. Mais ils se sont dit finalement, mais on n'est pas obligé de cantonner ça aux pixels. Qui peut le plus, peut le moins. On va faire ça sur du son aussi. Alors pour les pixels, si vous vous demandez à quoi ça sert, quand j'ai déjà parlé il y a quelques semaines du DLSS 2.0 qui permet de faire de la résolution dynamique et d'avoir des effets hyper chiadés comme dans Control, etc. Mais sans faire ramer votre machine, c'est une technologie qui est hyper intéressante, surtout avec les gens qui commencent à jouer sur des écrans qui sont un petit peu plus gros que leur ventre. À savoir que si vous voulez jouer, vous voulez travailler sur un écran hyper large, par exemple avec les méga dalles qu'on a maintenant, le problème c'est que quand vous voulez jouer dans cette résolution native avec votre dernier jeu, même avec une très bonne carte, ça peut être un problème. Donc du coup, le DLSS va permettre de faire de la résolution un petit peu dynamique là-dessus et dire bon, là ça t'as pas besoin de le voir, ça on va ruser, etc. Et ça marche vraiment très bien maintenant. La version 1.0 était pas terrible, la 2.0 est bien meilleure. Et du coup, avec le RTX Voice, l'idée c'est de régler tous les problèmes de son quand on n'a pas un fast kill sous le coude pour streamer. C'est-à-dire que là, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui vont vouloir streamer avec des micros pourris, un ventilateur dans le dos parce qu'il fait chaud, il y a des bagnoles qui passent dans la rue et avec les chats, tout ça, des chats. Non, est-ce que ça marche sur les chats? Je ne sais pas. Mais ça va être intéressant à suivre. Donc du coup, ce truc va enlever en fait tous les bruits parasites. Alors, il y a déjà des vidéos qui tournent sur Internet, dont une extrêmement bien faite chez un mec qui est pas très connu, mais qui est extrêmement didactique. Si vous voulez streamer, il a énormément, si vous parlez anglais, vraiment, c'est une source d'infos assez intéressante, ce gars, et qui fait une démo intéressante dans une vidéo qui d'ailleurs est une vidéo d'information globale. Hein. Il fait des points infos pour les streamers régulièrement. C'est au milieu de sa vidéo. Et du coup, vous allez voir que, évidemment, quand le truc est activé, c'est assez bluffant, puisque vous prenez un gros Dyson, vous savez, le truc qui peut réveiller un immeuble, et là, d'un coup, bim, vous l'entendez plus du tout. Il tape sur son bureau, hop, ça marche aussi. Alors, comment ça fonctionne? Alors, je vais essayer d'enlever la part de magie. C'est en fait un processus qui est basé sur le machine learning. Donc, en fait, le gros du boulot est fait en amont par Nvidia, où ils vont entraîner, en fait, leur modèle pour reconnaître certains sons. Donc, alors, pour l'instant, ils ont vachement bossé sur les sons qui viennent des PC. Donc, vos ventilos, des bruits de coil, tu sais, des bruits électriques un peu chiants, là, avec les alimentations. Ils ont entraîné ça avec, les chatters, donc les gens qui sont en train de discuter autour de vous, quand vous vous cognez dans votre bureau. Alors par contre, ça va pas masquer le gros aïe qui s'ensuit généralement, mais les alarmes, les armes de bagnole, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas couvertes, mais tout ce qui est ventilo, clim, etc., c'est couvert. Et on arrive dans une période où ça peut rendre de grands services. Le but du jeu, ça va être de continuer à améliorer ça. Et exactement un petit peu comme pour d'autres choses comme xCloud dont tu parlais tout à l'heure, c'est des projets qui ne devaient pas sortir aussi tôt en fait. Donc là, on est sur une bêta assez fraîche, pour pas dire d'autres mots, qui va potentiellement déconner chez pas mal de monde. Il y a des gens qui ont Windows 10 qui plantent, il y a des gens comme chez moi qui, malgré les paramètres corrects, n'ont pas l'air d'être pris en compte, mais j'ai deux cartes sonores, j'ai un setup un peu particulier. Donc voilà, c'est des choses qu'ils ont, ce qu'on appelle des edge cases, tu vois, les choses que tu testes quand t'es en phase de debug. Pour l'instant, ils y sont pas, et ils ont même pas fini effectivement d'entraîner le modèle de machine learning. Et donc, il y a une page feedback sur laquelle on peut même envoyer des extraits de sons, de trucs, tu vois, ça m'emmerde, monsieur Nvidia, est-ce que tu pourrais l'enlever?
Ouais, pour faire du subtractif derrière.
Exactement, donc ça c'est reconnu après par le machine learning et ça va dégager ce truc-là. Donc il y a un mec par exemple qui habite à deux pas d'un aéroport qui fait, écoutez, moi je suis sur Discord avec mes potes, à chaque fois qu'un avion passe, c'est l'enfer, je peux pas jouer, enfin eux en tout cas je les saoule, moi j'ai l'habitude, donc voilà, si vous arrivez à faire de la magie là-dessus, je vous aime d'amour. Donc ça c'est la très bonne nouvelle, la moins bonne nouvelle, mais qui est encore un petit peu sujette à caution parce que c'est tout nouveau, c'est sorti il y a quelques jours et il faut faire beaucoup plus de tests. C'est que, a priori, ça s'appelle RTX Voice, mais ça marche très bien sur des cartes GTX. Alors, quelle est la part de marketing là-dedans? Bonne question. Quelle est la part technique? C'est-à-dire, est-ce que sur GTX, il y a un souci potentiel de puissance? On ne sait pas. Les premiers tests, apparemment, c'est non. Si vous êtes en train de vous dire, oui, mais si je stream avec ce truc-là et que j'ai un jeu qui déjà bouffe toute la puissance de ma carte graphique, est-ce que ça va ramer? Alors, Nvidia dit non parce que on va être sur eux, ils estiment que ça prend 1% de ta carte graphique. Donc, que dalle. Maintenant, les tests qui sont déjà dispo sur le net, évidemment, sur YouTube, il y a déjà plein de mecs qui ont fait des tests, c'est très variable. En fonction du jeu, en fonction de la puissance de la bécane, il y a des deltas assez impressionnants. Dans certains cas, on perd 20% de framerate quand même. Mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est-à-dire que, est-ce que c'est parce que c'est la version bêta? Est-ce que c'est un problème de PC? Est-ce que c'est un problème de driver? Ça rajoute une couche un petit peu compliquée. Il va falloir creuser. Le produit est tout nouveau. Le bénéfice de ce produit est assez hallucinant. Je vous fais chier depuis des années avec le bonheur que c'est d'utiliser un clavier mécanique. Ouais, sauf que tout le monde n'a pas des micros qui rejettent les bruits, un peu comme ce que j'ai moi chez moi par exemple, qui permettent d'imiter la casse. C'est des produits un petit peu haut de gamme, un peu chers. Bon, tout le monde n'a pas des micro-casses de bonne qualité. Là, avec ce truc-là, boum, d'un coup, c'est le silence absolu. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous, pour vous, les mecs de l'autre côté, mais aussi... Quand les gars en face ont pas du tout ce matos-là et ont un micro nul, vous pouvez en fait les filtrer vous, en fait. Donc vous pouvez filtrer ce qui arrive dans votre Discord. Alors, si ça marche sur les chats, par exemple, quand j'enregistre avec Fastkill, ça va être génial, car je n'aurai plus jamais de déconvenu avec un chat qui vient essayer de faire le podcast avec nous, par exemple. Faudra qu'on leur fasse quand même un petit truc, au moins sur le Patreon, tu vois, pour leur dire, regardez, ça c'est un podcast fait par des chats qui vous explique la technologie.
Cela dit, pour les podcasts, c'est moins dramatique dans le sens où il existe des outils qui font ça en post-prod, en fait.
Bien sûr.
Effectivement, là, on est plus dans une configuration live streaming, gaming,
ou podcast de feignant,
effectivement.
Mais live.
Tu peux aussi voir ça comme étant un produit nettement plus accessible, en fait, parce que faut pas se voiler la face, hein. Les plugins dont je parle, c'est 300 balles pièce. Alors oui, ça fait le taf derrière, mais tout le monde n'a pas 300 balles à mettre pour pas que ses copains de jeu entendent les chats.
Exactement. Donc là, c'est hyper intéressant. On va suivre ça. Il faut bien voir que là, c'est vraiment, on est en version 0.5, .watt 1000, .watt truc, tu vois. Donc on est vraiment au tout début. Mmh. Nvidia, d'ailleurs, précise dans son truc, quand vous êtes pas en train d'utiliser, désactivez-le. parce que en fait, même eux sont pas persuadés que, tu vois, en termes de puissance bouffée, etc., il n'y a pas non plus des trucs à vérifier. Donc c'est vraiment le tout début. Si vous en avez l'usage, bah allez vous amuser avec ça. Si vous en avez pas l'usage, bah ça sert à rien de vous perdre votre temps. Mais en tout cas, techniquement, c'est vraiment très très intéressant. Moi je sais qu'il y a déjà des streamers qui l'ont mis hier soir parce que bah il fait chaud, ils sont dans des bureaux, dans la cave, et la clim ça fait chier tout le monde, mais surtout lui quand il peut pas la mettre. Donc je parle de Mister MV hein, qui nous a fait une petite surprise d'ailleurs à moi et mes potes à 3h du mat. Bon, j'ai fait un petit stream, ça n'a rien à voir avec avec notre émission, mais faut vous savoir que quand vous êtes en train de streamer avec 5 potes plus pour enregistrer votre gameplay qu'autre chose, et que vous avez 2000 personnes qui arrivent sur votre stream, ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. Donc d'ailleurs bonjour à ceux qui écoutent ce podcast, parce que j'ai fait la pub évidemment, vous me connaissez, moi le marketing je n'oublie jamais. Donc évidemment je leur ai dit Torréfaction tous les vendredis à 8h, venez nous voir.
Mais patreon.com/geekzonefr,
bien sûr, évidemment c'est la base. Donc on a bien rigolé, mais du coup moi ce qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai été voir comment il avait lancé, comment il m'avait raid, si tu veux, ça me faisait marrer de voir ce qu'il avait dit. Du coup, je me suis aperçu qu'il utilisait déjà ce plugin-là pour bloquer justement sa climatisation et que ça marchait nickel chez lui. Donc, je pense que cet été, Nvidia va se faire des potes. Et évidemment, là, vous êtes en train de me dire, oui, mais moi, je voulais acheter une carte AMD. Il y a des nouvelles cartes AMD qui sortent à la fin de l'année. Comment on va faire ? Techniquement, AMD a les mêmes trucs dans sa puce pour faire la même chose, mais c'est du dev software, tu vois. Donc, on ne sait pas exactement ce qui est nécessaire en termes de hardware dans les cartes Nvidia pour que ça tourne.
C'est la question que je me posais, et d'ailleurs j'en profite s'il y a des gens qui écoutent et qui ont cette info. Moi, je suis très intrigué par ce qu'il y a comme algorithme derrière, parce que, voilà, justement, pour comparer un peu avec ce qui existe sur le marché de la production, voir un peu si c'est un truc qu'ils ont développé. Toi, tu as l'air de dire que c'est plutôt développé in-house,
ou si c'est du machine learning
qu'ils ont... Ouais. Ils ont emprunté des technologies chez Waves, par exemple, qui fait aussi du machine learning. Voir si c'est ces trucs-là qu'ils ont été piqués chez eux ou pas. Enfin, ça m'intéresse. Après, c'est purement par curiosité. Hein, mais
Mais venez. Mais moi, j'ai pas eu le temps d'avoir le retour aujourd'hui. Je voulais embêter mon agent secret chez Nvidia. J'ai pas eu le temps d'aller. J'ai pas eu le temps d'aller l'embêter. Mais en tout cas, je n'ai pas été influencé, n'est-ce pas? Si je dis des bêtises, pour l'instant, on n'en a pas dit, parce que c'est vraiment factuellement le ressenti que vous allez avoir quand vous allez télécharger le truc et les problématiques qu'on a déjà vues, ces plantages, etc. Bon, c'est des machines qui sont stables avant, qui ne sont plus stables après, donc généralement, on a tendance à voir d'où ça vient. Mais en tout cas, en termes de bénéfices, c'est rigolo, parce qu'on attend évidemment pas ça d'une carte graphique, mais tout est bon à prendre, et c'est des cartes qui sont tellement puissantes maintenant que, c'est des choses qu'on est content de voir débarquer. Maintenant, je ne serais pas étonné de voir AMD faire une bonne réunion dès mardi dernier en se disant « Ok, Nvidia vient de sortir ça, on a des processeurs avec 42 000 cores sur nos CPU, pardon. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de faire des applications dans ce genre-là aussi ?» Donc, on va voir ce que ça donne. Mais encore une fois, techniquement, je ne sais pas quelle est la secret sauce qui permet de faire en sorte que ça marche vraiment aussi bien. Si vous avez une GTX, il y a des méthodes sur Internet. Alors, je sais pas, j'ai pas prévu de vous le linker dans le billet qui accompagne le podcast, mais venez nous en parler sur le forum, on vous trouvera les bons liens. Qui permettent effectivement de bruser pour installer le soft avec une GTX. En revanche, si vous avez une carte plus ancienne, là, a priori, ça ne marche pas ou ça marche mal. Mais encore une fois, on n'a pas de test assez poussé pour voir est-ce que le résultat est exactement le même avec une GTX, est-ce que les queues d'accord qui sont dans les GTX suffisent, etc. etc. Donc, il y a encore beaucoup de choses à creuser, mais en tout cas, c'est des perspectives hyper intéressantes et qui rejoignent alors les autres trucs dont je parlais, qui sont toute l'initiative Nvidia Broadcast. Pour ceux que ça intéresse, ils font par exemple un soft qui permet d'avoir un green screen, donc de virer votre bibliothèque moche avec vos BD de jeunes que vous vouliez cacher sans mettre de fond vert. Donc, d'accord, ils font un fond vert virtuel. Mm-hmm. Ça reconnaît en fait ta position et ça va uniquement te filmer toi. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui sont en train de faire pour les streamers qui sont hyper intéressants. Alors, évidemment, hein, c'est aussi marketing, c'est une façon de vendre du matos. Mais pour tout le monde, si vous aviez déjà prévu d'acheter chez eux, de toute façon, c'est que du bonus. Donc, c'est très bien. Continuez, les gars. Nous, ça nous fait plaisir.
Et on va terminer ce 129e épisode de Torréfaction avec un rant.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Ah.
Alors, qu'est-ce qui ne va pas cette semaine? Qu'est-ce qui ne va pas?
Ah, ça fait longtemps, ce petit jingle. Il met de bonne humeur, moi, jingle. Ça veut dire qu'on va se détendre. Alors, on va parler de disques durs, figure-toi. Tu te rappelles les disques durs à plateau qui tournent, que plus personne ne veut? Parce que maintenant, on a tous des SSD, on est d'accord. Eh bien, écoute, Western Digital a fait un truc assez rigolo, en fait. Ils ont commencé à vendre, mais sans le dire, des nouveaux disques durs avec une technologie qui n'est pas très, très, très nouvelle, mais pas non plus un truc dont on a l'habitude de voir sur des disques durs classique, qui s'appelle la techno SMR. Rien à voir avec l'ASMR, attention, hein, c'est un truc que je pourrais essayer de vous prononcer, mais j'ai pas envie, le premier mot me fait peur, j'y vais pas.
Je vais essayer le Shingled Magnetic Recording.
Ah voilà, c'est beau, j'aime bien quand tu le fais, tu vois, tu le fais mieux que moi. C'est le Shingled, je le sentais pas, le Shingled, tu vois, il est bizarre ce mot pour moi. Bon bref, ce truc, c'est des technos qui permettent de mettre plus de données par plateau, et donc de te vendre des disques durs de grosse capacité comme d'habitude, mais en dépensant moins d'argent de leur côté, puisqu'ils vont virer du matériel à l'intérieur. Et là, vous vous dites, il y a une arnaque. Oui, car contrairement à la techno habituelle qui s'appelle le CMR, pour Conventional Magnetic Recording, il y a un petit souci, c'est que les performances sont quand même vachement moins bonnes, particulièrement en fait sur ce qu'on appelle les random I.O., donc les accès de fichiers random sur donc au hasard quand tu as besoin d'aller travailler avec plein de fichiers différents au même moment, tu vois. Et là où ça a un petit peu énervé Ars Technica, qui a été le premier à lever le lapin, c'est que Western Digital a commencé à balancer ce qu'on appelle les WD-RED, donc des disques durs dédiés au NAS avec ça, donc pour faire du stockage. Et donc, si c'est pour faire du stockage des films que vous envoie votre cousin Bob VHS, c'est pas très 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 grave. Mais si c'est des NAS qui sont utilisés en entreprise avec plein de gens qui travaillent dessus, des accès dans tous les sens, bah là, d'un coup, les performances vont être dégueulasses. Et toi, t'es pas au courant parce que t'as pas fait gaffe, t'as pas lu la petite étiquette, tu vois. Donc, tu sais pas pourquoi ton NAS, il se met à ramer. Évidemment, Western Digital te dit, mais pas du tout, ça fonctionne très bien, cette technologie est parfaite. Ou ils vont pas te dire le contraire, ils sont déjà en train de les vendre, ils ont prévenu personne. Alors déjà, si tu préviens personne en technologie, généralement, c'est qu'il y a une arnaque. Parce que quand tu fais un truc nouveau, on est d'accord que t'as un communiqué de presse qui part en disant « On a un nouveau truc, les petits gars, ça va déchirer, vous allez m'acheter ça tout de suite. » Quand tu sors un truc et que tu dis pas que c'est dedans, bon...
C'est suspect.
Voilà, tu vois, tu sens que le mec, il est quand même un petit peu en train d'essayer de t'arnaquer. Et évidemment, de l'autre côté, t'as Seagate qui a fait genre « Ah, mais oui, on connaît cette technologie, c'est vraiment de la merde !» Tu sais, les bons potes, les bons potes en face qui font genre « Ah, non, mais faut pas faire ça, vous êtes tarés, les mecs !» Alors nous, évidemment, nos disques durs pour les NAS, évidemment, on mettra jamais ça dedans. Donc, les Iron Wolf, c'est confirmé, il n'y a pas de SMR dedans. Très bien, bravo Seagate. Mais en même temps, les mecs te font genre « Oui, alors par contre, alors je voulais vous dire, il est possible que éventuellement on ait des disques pour les ordinateurs avec ça. » Mais c'est pas grave. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Bon, évidemment, c'est un souci parce que si ta bécane, tu l'as pas acheté pour décorer ton bureau et pour lancer Fortnite une fois dans la semaine, t'as besoin qu'il soit quand même rapide tout le temps. T'as pas envie de te dire « Tu perds des perfs pour rien, tu vois. » Donc, Ars Technica n'est pas très d'accord avec cette affirmation et j'avoue que je les rejoins. Donc voilà, maintenant, il va falloir apprendre à lire les étiquettes quand vous achetez vos disques durs pour vérifier que c'est bien du CMR. Donc, l'autre truc que je voulais évidemment préciser, c'est que normalement, vous n'avez plus ces étiquettes à lire, sauf si vous avez un NAS, puisque je vous confirme qu'il faut acheter des SSD de toute façon. Donc, tout ça, pour vos ordinateurs personnels, normalement, c'est un débat qui ne doit pas vous toucher. Mais si vous êtes en train de vous monter une bécane avec plein de disques durs pour du stockage, etc., il faut faire attention à ce genre de truc. En revanche, si les prix baissent sur les disques SMR, là, ça sera intéressant. Parce que pour l'instant, évidemment, la ruse de ces gens-là, c'est que les prix ne sont pas vraiment descendus. Donc, évidemment qu'il y a le dieu marge qui est au rendez-vous. Alors qu'effectivement, les disques SMR, pour faire du stockage sur des trucs sur lesquels t'as pas besoin de faire des accès, etc., c'est très bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la base, ça avait été, entre guillemets, développé et vendu, tu vois, pour faire des gros disques durs où t'as pas besoin de perf de taré. Donc voilà, maintenant, vous êtes au courant de cette petite embrouille. Je vous ai linké les deux news dédiées chez Ars Technica pour avoir encore plus d'informations. Et puis, pour vos prochains achats, vous savez quoi regarder.
Ça va mieux?
Ah, écoute, moi, je suis détendu, là, hein, tu vois. Moi, il me laisse enfermé. Au bout d'un moment, il faut que je fasse un peu de sport, mais dans un micro, c'est très différent.
« Allez, c'est la fin de ce 129e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, on vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas de passer sur le Patreon, patreon.com/geekzonefr, pour nous aider à produire des podcasts, à faire des news et des petits dossiers sur le site. Et puis sinon, passez nous voir sur Discord aussi, hein, puisqu'apparemment, maintenant, il y a 2000 gars qui regardent le CAF tous les soirs.
Alors, tous les soirs, non. D'ailleurs, je vais t'envoyer le screenshot des statistiques que j'ai eues après. Je pense que j'ai fait planter le bot de Twitch qui m'a dit 19 000% d'augmentation. Bah oui, forcément, ça fait beaucoup. Hein. C'est rigolo. Mais oui, venez les gars, soyez présents. Venez aider les vrais vieux monsieur du game. Car Mister MV, il n'est pas si vieux que ça, en vrai. Hein, je voulais vous dire. C'est un scandale, ce titre. Voilà, c'est tout.
Allez, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
Have care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard, and he is my brother.
He killed 80 people in 2 days.
He's adopted.